Hier matin, on était quelques-uns, une dizaine. On a abordé plusieurs choses et puis on a pu faire un petit tour de table où chacun, j'allais dire devait, non, pouvait, s'exprimer sur les dons qu'il pensait avoir. Et c'est toujours un exercice délicat quand on doit parler de soi-même. Hein. Et il y avait ce tour de table qui se faisait. Ce qui était beau et intéressant, c'était de voir comment. Ben, chacun a un peu de mal à dire, ben, moi je, ben, il me semble que, mais je sais pas. Et puis les autres pouvaient dire aussi, c'est évident que toi, là, et puis ça, et puis ça, et puis ça. On pouvait voir aussi, parce que au-delà de la politesse ou de la fausse modestie ou d'un peu de pudeur, hein, qui sont normales, mais quand même une chose qui était évidente, et je crois on le sait tous, c'est que on a du mal à se voir comme on est réellement. On a du mal à accepter ce que l'on est réellement, et puis on se connaît pas si bien que ça. Un des rôles de la vie de l'Église, quand je dis vie de l'Église, je me réfère pas spécialement justement à ce moment le dimanche matin où il y a peu d'interactions, mais à la vie véritable de l'Église, nos échanges, nos rencontres, nos partages, nos moments de prière, de vie ensemble, d'activité ensemble, de travail ensemble des fois. Devrait être de nous permettre de nous connaître nous-mêmes mieux par le regard des autres. Pour ça, on va voir plusieurs choses qui sont liées ensemble ce matin pour voir un processus qui va être important dans cette découverte. Je voudrais commencer avec un premier passage dans Romains, chapitre 13, verset 9. L'apôtre Paul parle et dit ceci: En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un passage parallèle dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. En fait, dans le plan initial de Dieu, l'être humain devait construire, découvrir, nourrir son image propre par sa relation avec Dieu et avec l'espèce humaine. Au départ, la femme pour l'homme et l'homme pour la femme, et puis après tous les autres. Hein. Nous avons été créés à l'image de Dieu et la Bible nous parle tout le temps de la relation de la Trinité. Comme une relation où chacun est distinct dans sa personne, mais en même temps dans une unité parfaite, et où chacun reflète les qualités, les caractéristiques de l'autre. Hein. Hébreux 1,3 nous dit que le Fils est le reflet de la gloire du Père. Il y a beaucoup d'autres passages qui font des allusions comme ça, qui nous expliquent que le Père, le Fils, le Saint-Esprit reflètent chacun ce que l'autre est. Et manifeste. Jésus dit, je ne parle pas de moi-même, je vous dis ce que. Et puis le Saint-Esprit dit, mais moi je révèle Jésus-Christ. Et donc chacun renvoie à l'autre son image, hein, dans une relation d'amour. Lorsque Adam a été créé, il avait Dieu comme vis-à-vis déjà dans un premier temps. Et donc Adam savait, découvrait, apprenait qui il était par sa relation avec Dieu. Dieu lui disait, je t'ai créé à mon image, et Adam apprenait, hein, j'ai été créé à l'image de Dieu. Et puis, il y a ce passage, hein, qui s'applique pas simplement au mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Hein. Un vis-à-vis, ce qui se tient en face, ce qui se droit devant, pour refléter aussi. Donc, dans le couple d'abord, bien sûr, dans la famille, mais aussi dans les relations humaines, quelles qu'elles soient. Le plan initial de Dieu, c'était que chacun découvre son image dans le reflet de l'autre, dans ce que l'autre en renvoyait. Bien sûr, la chute est venue tout fausser puisque elle a distordu notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre relation avec nous-mêmes. Et par voie de conséquence, par ricochet, l'homme s'est retrouvé isolé, replié sur lui-même, avec comme seul point de repère pour découvrir qui il est, lui-même. Et c'est catastrophique, parce que c'est moi qui dois me dire à moi-même ce que je suis. Et on s'aperçoit à quel point nos images propres sont tordues. Dans quelques cas, ça peut être... C'est relativement rare, en fait, l'orgueil dans sa forme la plus pure, on va dire, ou traditionnelle. Il y en a, hein. Mais les gens qui sont fermement persuadés d'être les seuls à tout savoir et être au-dessus de tout le monde, c'est effectivement des gens très désagréables, mais il y en a très très peu. Souvent, c'est plutôt quand même le contraire, hein. Je pense que je suis pas assez bien dans ça, que je suis pas capable dans ça, que j'arriverai pas à ça. Et peut-être il y a une partie de vérité là-dedans, mais en tout cas, notre image de nous-mêmes est confuse, elle est floue, elle est source d'insécurité, et elle fait que nos relations avec les autres sont compliquées. Et c'est là où c'est un cercle vicieux, hein, un enchaînement infernal, parce que je devrais découvrir qui je suis dans le regard de Dieu, bien sûr, mais de mes frères et sœurs aussi. Mais parce que je ne suis pas assuré dans mon image propre, j'ai peur de Dieu et j'ai peur de mes frères, parce que j'ai peur qu'ils me disent « tu n'es pas assez, tu ne suffis pas, tu n'es pas aimable, tu ne peux pas être aimé, tu ne peux pas être accepté ». Donc, je m'éloigne de Dieu, je me protège des autres êtres humains, et je connais encore moins qui je suis, et j'ai encore plus peur, et je m'isole encore plus. Hein, vous voyez comment ce cercle vicieux nous tire vers le bas. Mais lorsque Jésus vient, il reprend donc les commandements qui avaient été donnés à Moïse et il les amène plus loin. Hein, parce que déjà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'était dans la loi. Hein. Mais Jésus vient et puis l'amène plus loin lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. » D'ailleurs, il ne dit pas pour accomplir la loi, pour accomplir. Hein. Et le mot « accomplir » est intéressant parce que lorsqu'on le lit comme ça dans notre langue, en français, on peut s'imaginer « accomplir la loi », ça veut dire « faire ce que la loi a dit de faire ». Alors, c'est pas du tout le sens du mot qui est utilisé ici. Le mot « accomplir » dans ce passage-là, je vous donne la référence quand même pour ceux qui veulent le chercher. Il faut juste que je la retrouve. Matthieu 5, 17. Hein. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et le mot ici pour accomplir, c'est le mot qui ailleurs est traduit par rendre mature, rendre parfait, amener à son plein développement. Hein. Étymologiquement, au départ, c'est un mot qui veut dire remplir quelque chose, lui donner son contenu. Une image simple et précise, une chenille accomplie, c'est un papillon. Une fleur accomplie, c'est un fruit. Un bébé accompli, c'est un adulte. Vous voyez ce que ce mot veut dire ? C'est amener quelque chose à atteindre le développement qui doit être le sien. Lorsque Jésus vient et dit « Je suis venu pour accomplir », c'est pas juste qu'il était venu pour faire ce que la loi disait de faire. Bien sûr, comme il était saint, il n'enfreignait pas la loi. Hein. Mais il était venu pour l'amener plus loin. La chenille doit devenir un papillon, la fleur doit devenir un fruit, le bébé doit devenir un adulte. Parce que lorsqu'on voit la loi se contenter de mettre des barrières pour pas que je fasse de tort à mon prochain. Hein. Dans le passage qu'on a lu, dans Romains 13 déjà, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » C'était des choses négatives. Tu touches pas, tu prends pas, tu convoites pas, tu ne vas pas faire de tort à l'autre. Et effectivement, si la planète respectait ces commandements-là, ça serait extraordinaire, ça serait merveilleux. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour amener ces choses-là plus loin. Je ne vous dis pas juste, tu ne convoiteras pas. Ou tu ne tueras pas, ou tu ne voleras pas, hein, mais tu aimeras ton prochain. C'est beaucoup plus. Parce que je peux ne pas voler les affaires de mon prochain, mais il reste chez lui, je reste chez moi, il a ses propriétés, j'ai la mienne, il y a une barrière entre les deux, on se dit bonjour quand on va chercher le courrier parce qu'on est poli, mais ça s'arrête là. Et si je fais ça, je respecte la loi. je prends pas ses damascines, il prend pas les miennes, hein, je prends pas ses pommes, ce sont pommiers, il prend pas les miennes, je prends pas, chacun chez soi, et c'est bien. Mais Jésus dit, tu aimeras ton prochain. C'est beaucoup plus, ça veut dire que je sors de chez moi, et je vais rencontrer l'autre, parce que je peux pas aimer quelqu'un si je le rencontre pas. Je peux pas aimer quelqu'un si je le connais pas. Je peux pas aimer quelqu'un si je vais pas vers lui. C'est beaucoup plus difficile. Mais c'est ce que Christ est venu apporter. Et en même temps, il y a ce qualificatif qui revient à chaque fois. Jésus le cite plus de 5 ou 6 fois dans les évangiles. Et là, c'est repris ces 2 fois-là dans les épîtres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est intéressant que ce soit toujours la mesure qui est donnée. Il n'est pas dit tu aimeras ton prochain parfaitement ou tu aimeras ton prochain à tel niveau ou tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je me rappelle quand j'étais, je pense que je savais pas encore lire, donc je vais pas être très grand, hein, genre 4 ou 5 ans, avoir demandé à mes parents après avoir entendu ce verset peut-être dans un culte familial ou à l'église ou je sais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même ? En tant qu'enfant, j'avais jamais pensé à ce concept. M'aimer, moi, je savais que mes parents m'aimaient ou que d'autres personnes m'aimaient, mais s'aimer soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me rappelle, parce que ça avait surpris mes parents, que je pose cette question, parce que ça leur paraissait évident pour eux, hein. Et je leur dis, mais moi, je m'aime pas, moi, dans le sens, j'étais pas conscient du fait que on s'aime soi-même, ou qu'on doit s'aimer, ou qu'on peut, ou devrait s'aimer. Et, cette mesure mise par Jésus, en même temps, nous montre la limite de notre amour pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je me déteste, ça veut dire quoi? Que je vais détester mon prochain? D'une certaine façon, oui. C'est pas ce que Dieu veut. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut comprendre que si on met pas les choses dans le bon ordre, ça va pas fonctionner. Hein. Lorsqu'on construit une maison, on n'essaie pas de suspendre les rideaux dans l'air. Et puis autour de ça, on va mettre une fenêtre, et après on essaiera d'avoir un mur. Et puis peut-être on creusera dessous pour que le mur tienne des fondations. Personne ne ferait ça, ça n'a pas de sens. Hein. Je trouve ça ridicule. Mais là, c'est la même chose. Si je pars de « je dois aimer mon prochain » parce que la Bible le dit, et puis ben, je dois accomplir ce que Jésus a dit, alors je me lève le matin et je dis « il faut que j'aime mon prochain ». Ça marche pas. Oui, je vais aimer ceux qui sont aimables, parce que c'est facile. Hein, ou ceux qui me ressemblent, ceux qui me dérangent pas, ceux qui me désécurisent pas, ceux qui me renvoient justement une image positive de moi-même, je peux à peu près les aimer. Mais là, ici, il est dit, tu aimeras ton prochain. Et Jésus est très clair, mon prochain, c'est l'autre. Hein, celui qui est pas moi. Tous les autres. C'est compliqué. Et c'est pour ça que nous avons besoin de laisser Dieu réparer ce qui a été cassé. Parce que, vu que la chute a détruit ce qui devait construire notre image propre de façon positive, s'il n'y a pas réparation, reconstruction dans ce domaine-là, je vais être en réalité incapable d'aimer mon prochain. Je peux, au maximum, essayer de ne pas me disputer avec. C'est souvent, déjà quand on arrive à ça, on est satisfait. Ah ben nous, on se dispute pas. Et c'est pour ça que souvent c'est compliqué parce que, dans une vie d'église ou dans une association humaine quelle qu'elle soit, mais là on parle d'une église locale, comme on sait que c'est pas bien de se disputer et que si on s'approche trop les uns des autres, on se dispute, alors on garde chacun nos distances et on est quand même content parce que dans notre église, on s'entend bien, hein, on se dispute jamais. Mais Jésus a pas dit « entendez-vous bien les uns les autres et ne vous disputez pas », il a dit « aimez-vous ». Oui, mais pour s'aimer, il faut s'approcher. Quand on s'approche, on se dispute. Alors, plutôt que de se disputer, on se contente de ne pas se disputer, de bien s'entendre. Et pour ça, chacun chez soi. Hein. Et on est tous dans ce piège-là. Hein. Ça se manifeste différemment selon les endroits, les époques, les cultures, mais c'est pour ça que ben, on se replie, on construit des protections, on construit des personnages, on construit des façades, tout ce qui doit être vu par les autres. Chacun a sa technique. Hein. C'est comme dans le monde animal, pour se protéger, il y a ceux qui courent vite, il y a ceux qui mangent les autres, il y a ceux qui ressemblent aux feuilles, il y a ceux qui sont tout petits, il y a ceux qui volent très haut. Chaque animal a sa façon de se protéger. Les êtres humains, c'est pareil. Hein. Il y a ceux qui sont très agressifs. C'est souvent des gens très fragiles, très désécurisés. Donc, plutôt que de me laisser agresser, j'agresse le premier systématiquement. Comme ça, au moins, on me laisse tranquille. Hein. Il y a ceux qui ont construit le personnage de... Hein, je suis, oh, vous pouvez rire de moi, de toute façon je suis ridicule. Dites que je suis ridicule, je le dis moi aussi. Hein. Puis c'est souvent hein, le rôle de bouffon du roi, mais en réalité c'est des gens très très blessés qui sont touchés au fond d'eux. Mais j'aime mieux rire de moi, comme ça au moins si les autres veulent rire de moi... Ben, je suis pas ridicule, j'ai déjà fait avant, quoi. Hein. Et puis et chacun a ses méthodes. Tout ça parce que j'ai peur, parce que je sais pas réellement qui je suis, parce que je suis désécurisé. Et donc, dans ces conditions-là, aimer mon prochain, mission impossible. C'est là normalement que Thomas devait faire tan 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 tan. Mission impossible. Bon, on avait mal répété, c'est pour ça. Hein. Et je dois remettre les choses à l'endroit. Donc, si je comprends ces choses-là, je vais devoir accepter de passer par le processus entier. Et c'est tout simple, mais c'est tellement compliqué. Premièrement, je dois faire quoi ? Ben, me tourner vers Dieu. Mais c'est difficile, parce que je me tourne vers Dieu, il va voir que je suis nu. Ça a commencé comme ça. Adam, tu es où ? Je savais que j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a dit que tu étais nu ? Tu as toujours été. Oui, mais là, tout d'un coup, mon image propre a changé. J'ai découvert que je suis plus assez bien pour toi. C'est moi qui t'ai fait. Pourquoi tu serais pas assez bien pour moi ? Ah, mais tout était cassé. Et on est toujours dans cette logique-là. Donc, la première chose, me tourner vers Dieu, et c'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de faire des choses pour Dieu. Hein ? De passer sans s'arrêter en laissant son carnet de notes sur la table. Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi cette semaine. Regarde mes notes. J'étais au culte, j'étais à l'heure, j'ai prié deux fois, j'étais à la réunion, j'ai donné à manger à mon voisin qui était pauvre, j'ai été gentil avec lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. À la semaine prochaine, merci Seigneur. Hop. Hein. Mais se tourner vers Dieu, c'est justement laisser de côté ce que je pense avoir fait ou pas fait, ou justement pas fait aussi. Hein. Et accepter de lui faire face. Et se tenir nu dans la lumière de Dieu, c'est difficile, parce que dans le noir, ça va, mais dans la lumière, ouf. Hein. À la maison, j'ai résolu le problème, j'évite les miroirs, mais là... Hein. Mais pourtant, c'est dans cette lumière-là, c'est en lui faisant face que je vais... pouvoir être guéri. Donc premièrement, me tourner vers Dieu, et puis faire le choix de le contempler. On l'a chanté dans toutes ses formes. Ça veut dire laisser le temps au temps de faire son travail. Parce que si je passe en courant, Seigneur, bonjour, c'est moi, bénis ma journée, c'est super, je suis occupé aujourd'hui, on se revoit demain. C'est bien, c'est quand même mieux de commencer sa journée que sans avoir une pensée pour Dieu. Mais c'est clair que c'est pas là qu'il va avoir le temps de construire quelque chose. Donc, me tourner vers lui, et puis, on va prendre le temps. Le temps de quoi ? Le temps de rien, juste le temps de rester là. Et il y a un passage qui décrit ce processus. J'aimerais qu'on le lise ensemble dans 2 Corinthiens 3. On va lire les versets 15 à 18. C'est Paul qui parle toujours, hein, il écrit aux Corinthiens. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il parle des Israélites. Hein. Mais lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez tout ce qui est expliqué là, hein ? Tant que je suis sous la loi à faire accomplir, ben, y a un voile et puis j'ai peur parce que je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur. Mais lorsque nos cœurs se tournent vers Dieu, et c'est vrai le jour de notre salut, mais se convertir dans ce sens-là, c'est pas juste le jour où on a rencontré Jésus-Christ. J'ai besoin de me convertir, de me tourner vers Dieu, de revenir vers Dieu sans arrêt dans ma vie. Et lorsqu'on se tourne vers lui, le voile est ôté. Ce qui faisait que notre relation était tordue, était bizarre, était pas correcte, que je voyais mal, est enlevé. Et le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Premièrement, Dieu nous dit, viens en toute liberté, approche-toi de moi comme tu es. Et puis, prends le temps de me regarder. Parce que lorsque tu me regardes, tu vas être transformé à mon image. Parce que tu vas découvrir qui tu es réellement dans mes yeux. Ce qui n'est pas la réalité que mes yeux à moi me donnent quand je suis devant un miroir, que le miroir soit physique ou juste quand je réfléchis à moi-même. Je passe devant une glace, je dis, ouh là là, ouf, l'été arrive, il va falloir faire quelque chose, il y a ci, il y a ça, on pourrait essayer. Alors, on a quelques artifices, un peu de couleur en plus ou en moins, quelques habits qui vont mieux que d'autres, un peu de sport, mais ça devient plus difficile au fur et à mesure que le temps passe. Et puis surtout, le plus difficile, c'est lorsque je pense à moi, ce que je suis à l'intérieur. C'est catastrophique. Plus le temps passe et moins je suis ce que je sais que je devrais être et moins j'y arrive. Ça, on aurait plutôt envie de baisser les bras parce que de toute façon, vu que de toute façon je finis toujours par terre, je ferais mieux de rester couché, au moins je ne tomberai pas. Quoi. Ça, c'est une solution simple. Mais on est appelé à vivre, à aller de l'avant. Et là, Dieu nous propose autre chose. Tiens-toi devant moi, regarde-moi, prends du temps devant moi. Et tu vas voir qu'en me regardant, tu vas être transformé à mon image par mon reflet. Parce que tu vas te voir dans mes yeux comme moi je te vois, et moi je te vois autrement. À cause de Jésus-Christ, bien sûr, à cause de son œuvre. Parce que il nous voit comme on sera et comme on pourra être et comme on pourrait être. Hein. Il voit ce qui est en nous et puis... Le péché a été enlevé par l'œuvre de Christ, même si nous on vit avec. Mais lorsque j'ai ce retour-là, ce regard de Dieu, ça construit une image propre, une identité, ce qu'on a un jargon évangélique qu'on appelle notre identité en Christ. Mais souvent, ça ne veut pas dire grand-chose concrètement pour nous. Mais découvrir qui je suis réellement pour lui. Et ça prend du temps, ça demande de la tranquillité, ça demande de s'arrêter et d'accepter de lui faire face. Et lorsque je suis transformé, et c'est ce passage qui le dit, hein, c'est pas moi qui l'affirme, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur, par l'Esprit. De gloire en gloire. Ça parle bien d'un processus. C'est pas je regarde Dieu et puis tout d'un coup il se passe quelque chose et poum, ça y est, je suis comme lui. Non. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Avec mes rechutes, avec mes erreurs, avec ce qui continue de pas aller, mais c'est un processus. Parce que lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu et que je suis guéri par ce regard qui m'aime, ça va créer en moi une petite capacité pour aimer mon prochain, puisque j'aime mon prochain comme moi-même. Hein. Maintenant, si je m'aime un petit peu, je peux aimer mon prochain un petit peu, tout petit peu, mais un peu. Et ça va me permettre d'avoir une relation différente avec mon prochain, qui elle aussi va renvoyer quelque chose. Et puis, ça va me ramener vers Dieu. Et puis, comme ça, dans un aller-retour entre Dieu et mon prochain et les autres, je vais grandir dans une image propre, positive. Je reste conscient, et c'est important de le rester, de mes faiblesses. Je ne me fais pas d'illusions sur le péché qui vient en moi. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait que je resterai faible, tordu, pourri jusqu'à la fin de ma vie. Mais il n'y a pas que ça en moi. Il y a autre chose. Il y a cette vie que Dieu a mis en moi, il y a tout ce potentiel qu'il m'a donné par la génétique physique et spirituelle, par ce qu'il m'a permis de vivre, et je dois grandir là-dedans, je dois le laisser se développer, et quelle que soit la période de ma vie, mon âge, mon stade, mon avancement ou pas spirituel, tant que je suis en vie, c'est encore vrai, et j'ai encore à découvrir, à grandir dans cette image-là. Et ça va être, hein, tout à l'heure je parlais de cercles vicieux, et puis il y a ce que j'appelle les cercles célestes, c'est quand les choses vont dans l'autre sens. Parce que je laisse Dieu m'aimer un peu, je progresse un peu dans mon image propre, et j'aime un petit peu mon prochain, et ça m'approche un peu plus de Dieu, et donc je vais le laisser un peu plus m'aimer, et ça va aller un peu mieux dans ce sens-là, et je vais aller un peu plus vers mon prochain, et ça va me ramener un peu plus vers Dieu. Et là, je suis plus dans un cercle vicieux, je suis dans une spirale ascendante, ou au contraire, petit pas, même s'il y a des rechutes, mais c'est pas grave, on se relève, on continue. Je vais progresser. Et c'est pour ça que on peut pas détacher ces choses. Parce que je pourrais pas aimer mon prochain si je commence pas par laisser Dieu m'aimer. Et ça m'a frappé hier quand on faisait le tour de table, de voir comment on avait l'impression que tous, autant qu'on était, ça nous arrachait la bouche de dire quelque chose de positif à notre sujet, hein. Et puis aussi de voir, en tout cas pour moi, de l'extérieur, plusieurs personnes qui, il me semble tellement évident qu'elles ont des dons dans tel ou tel domaine, et il me semblait que c'était pas juste de la fausse modestie ou de la politesse, elles le voyaient pas, elles le croyaient pas, elles l'acceptaient pas, hein. Oh non, moi, je, non, pas moi, je... Alors que de l'extérieur, on se dit, mais c'est évident que cette personne, dans ce domaine-là, elle est à sa place, quoi. Mais tout ça est lié avec notre image propre. Alors, je vais pas aller plus long, parce qu'il n'y a pas plus à dire, hein, mais simplement, repensons à ça. Prendre les choses au début. Toujours trouver comment les processus de vie que Dieu a mis en place fonctionnent. Parce que si je sors juste un morceau, et il est mort, il faut aimer ton prochain. Je peux faire de cette affirmation quelque chose qui tue. Parce que aller dire à quelqu'un qui n'arrive pas à avoir de relation avec les autres, tu dois aimer ton prochain, c'est traumatisant. Mais si je pouvais, je le ferais quand même. Je crois pas qu'il y ait grand monde ici qui se lève le matin en disant j'ai envie de haïr mon prochain. Ah, si je pouvais être plus méchant. Il y a peut-être eu des gens comme ça dans l'histoire, il y en a peut-être, mais il y en a probablement très très peu, et encore moins parmi les croyants. Si je pouvais être meilleur, si je pouvais être parfait, si je pouvais pardonner, si c'était si facile, il suffisait de le décider pour le faire, j'imagine ça irait mieux. Mais je me lève et puis j'en suis incapable. Et parce que j'en suis incapable, je me sens coupable. Parce que je me sens coupable, je m'éloigne de Dieu. Parce que je m'éloigne de Dieu, j'en suis encore moins capable. Et ça y est, on est reparti dans les cercles vers le bas. Donc toujours, okay, non. Dieu me demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors je dois d'abord m'aimer moi-même. Pour m'aimer moi-même, hop. Point 1, Seigneur, et l'épître de Jean le dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour premier, et c'est toujours le point de départ de tout dans nos vies. Si je ne reviens pas à cet amour premier, je suis incapable de tout, je ne peux rien faire. Et chaque fois que je suis devant mon incapacité à vivre ce que Dieu voudrait que je vive, ça doit juste me rappeler une chose. J'ai besoin de retourner vers lui. Le fils prodigue. Je retournerai vers mon père. C'est notre histoire, mais c'est tous les jours, 10 fois par jour, 100 fois par jour, c'est sans arrêt. Ah, j'ai pas envie de pardonner. Ah, je peux pas l'aimer. Ah, je veux pas le rencontrer. Ah, je veux pas le voir. Ok, pas de problème. Je retournerai vers mon père. Seigneur, je sais que je suis misérable. Je veux être l'esclave dans ta maison. Non, viens, on fait la fête. Tu es le veau gras. Appelez les musiciens. Mon fils est revenu. Ah, c'est super. Et là. Comment, mais moi je suis sale, je sens mauvais. Non, dans les yeux du père, le fils prodigue, il était beau, il était propre. On lui rend la carte de crédit, on lui redonne le code, hein, la non avec la possibilité de signer avec, c'était ça. Et on fait la fête. Mais c'est pas possible. Si, parce que Dieu me voit autrement. Dieu voyait pas son fils comme celui qui a été avec les prostituées, qui a dormi avec les cochons, mangé avec les cochons, dilapidé la fortune du père. Non, c'est mon fils. Toujours le même, toujours pareil. Je l'aime toujours autant. Et on fait la fête parce qu'il est revenu. Et on peut imaginer la transformation que ça a produit dans la vie de ce fils, de se voir en arrivant sale, découragé, déçu de lui-même, dans les yeux du père qui le voyait comme son fils, sans plus, sans rien d'autre. C'est dur à accepter, c'est violent, c'est fort. Et d'ailleurs, ça choque les gens religieux. Hein, le frère aîné qui... Oh, comment c'est possible? Ben oui. Il paraît que Daniel vous a parlé de ça. Mais pour nous, en tout cas, faisons cette démarche. Je reviens et je prends le temps. Je contemple. Contempler, c'est pas... hein. Nous tous qui le visage dévoilé, donc sans le voile de la loi, uniquement par grâce, prenons le temps de contempler la face de Dieu. Nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qu'il veut pour nous. Alors, Seigneur, merci pour de nous aider à comprendre ces choses-là, parce que nous avons d'abord besoin de comprendre comment ça fonctionne, et puis bien sûr de nous permettre de l'expérimenter. Et même pour venir vers toi, même pour nous tourner vers toi, nous avons besoin de toi. Même ça, nous ne sommes pas capables de le faire tout seuls. Alors viens à notre secours, mais nous voulons vouloir, nous voulons désirer, nous voulons consentir à nous tourner vers toi, nous laisser aimer, et que tu puisses reconstruire notre image propre, que nous puissions nous voir dans tes yeux, avec tes yeux, voir notre reflet en toi, et que ça puisse nous permettre de nous aimer nous-mêmes pour aimer notre prochain comme tu nous l'as demandé, Seigneur, afin que la loi puisse être amenée à son plein développement, qu'elle soit accomplie, et que ta vie soit manifestée autour de nous, Seigneur. Amen.